La réponse est très simple. Ils ont pensé que l'Esprit Saint les incitait à poser un acte prophétique. Et sur place, ils ont expliqué qu'ils ont fait un tir au sort sur les réfugiés qui avaient déjà, les personnes réfugiées qui disposaient de papiers et qui pouvaient être tirées au sort pour suivre le pape et revenir à Rome. C'est ainsi que ça s'est passé.
Mais qui va prendre en charge la subsistance de ces familles?
Alors, le Saint-Père lui-même s'est engagé. Depuis qu'il est là, que ce soit à Rome, il est très attentif aux personnes pauvres, aux personnes déshéritées. Il y a un aumônier spécial qui s'occupe de recevoir l'argent et de s'occuper de ces personnes. Et déjà, dès ce matin, ces personnes sont allées avec Sant'Egidio pour envisager l'inscription au cours de langue et commencer leur insertion sociale. Et tout cela sera pris en charge par ce qu'on appelle la charité du pape de l'Église, du pape François.
Il s'agit d'une initiative sans précédent dans un voyage papal, mais l'idée n'était pas instantanée, elle a été pensée plusieurs jours avant le voyage du pape, d'après le Saint-Père lui-même. Outre d'être humanitaire et symbolique, la démarche comprend-elle également une dimension politique?
Bon, il faut que cela soit clair, la dimension politique comme vivre ensemble est partout présente dans l'activité du Saint-Père. Vous rappelez que sa première visite d'ailleurs comme pape a été à l'île de Lampedusa après les différents naufrages et en allant justement à Lesbos, il a encore dit clairement « Je vais à la rencontre de la douleur, à la rencontre de la souffrance. Nous allons voir la mer qui est devenue un cimetière. » C'est un choix d'ailleurs fondamental pour le pape qui a dit qu'il appelle l'Église à être comme un hôpital de campagne après une guerre pour soigner la souffrance des personnes. Donc, on ne peut pas y voir, justement, un aspect seulement politique, politicien. Non, c'est le rôle même de l'Église. Hein, et effectivement, la dimension politique, c'est que cela souligne très fortement et donne honte aux politiques qui ont en charge la gestion, effectivement, du vivre ensemble. Et c'est une faillite de l'humanité, une faillite de la solidarité qui est dénoncée en acte par le fait même que le pape, il se rend sur place. Hein. Il a serré la main à 300 personnes différentes. Et comme il dit dans l'avion qu'il ramène, ces 12 personnes réfugiées tirées au sort représentent, comme disait Mère Teresa, une goutte d'eau dans l'océan de la misère. Mais c'est déjà cette goutte d'eau.
On sait d'ailleurs que la maison de l'une de ces familles a été détruite par le groupe État islamique. Et puis, il y a le renforcement des frontières dans certains pays d'Europe contre les flux migratoires. D'ailleurs, il y a des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. La démarche du pape peut être donc interprétée comme une prise de position sur ces différents fronts.
Je voudrais insister sur, par exemple, la symbolique par exemple, de ce qu'il a raconté sur le témoignage de ce jeune. La femme était catholique et elle a été égorgée. Et lui, il est musulman. Il raconte cela au pape en pleurant et le pape le retransmet. Alors, derrière ce récit, la dimension à faire voir, c'est que nous avons affaire à des êtres humains. C'est l'humanité qui souffre. Ce n'est pas d'abord les catégories d'islamistes, de barbares, de gens qui font le mal, mais c'est une humanité qui souffre. Mais en même temps, cela dit, la possibilité de cette humanité de vivre ensemble. Parce que si cet homme a été capable d'épouser une chrétienne qui a été égorgée par d'autres personnes, ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de l'amour entre chrétiens et musulmans. Mais il y a toujours ce risque-là de ces gens qui ont égorgé, qui ont fait le mal. Et le pape a appelé plusieurs fois aussi en disant politiquement qu'il faut arrêter les personnes qui font le mal, les personnes qui tuent.